Ah, je l'aime tellement, là. C'est vraiment important pour moi d'avoir un modèle comme ça parce que j'en ai pas tant eu quand j'étais jeune. Moi, j'étais entourée de gens qui étaient blancs et minces. Puis, fait que j'étais vraiment une outcast. J'avais pas grand monde à qui m'identifier.
Je pense que ce que je préfère de Lizzo, c'est que je le sais à quel point son existence fait chier vraiment beaucoup de monde. Il n'y a rien qu'on déteste plus qu'une femme qui prend la place, qu'une grosse femme qui prend la place ou une grosse femme noire qui prend la place puis qui est comme, elle s'en fout. Elle est quand même un des premiers modèles comme ça qui est aussi... qui s'excuse pas du tout d'exister. Fait que c'est sûr que c'est choquant, mais moi, je pense qu'il est absolument nécessaire.
C'est tellement du bien de voir une femme comme moi.
C'est peut-être pas nécessaire pour toi qui es mince, mais c'est nécessaire pour les personnes grosses d'être représentées.
Je pense qu'à défaut d'être de plus en plus confortable avec la diversité corporelle, je pense que la société est de plus en plus obligée d'admettre que ça existe.
Une femme, je suis grosse puis je suis noire, fait que des injustices, de la discrimination, j'en vis tout le temps. Fait que j'ai comme pas le choix d'en parler pour dealer avec ça.
J'essaie d'être ce que moi, j'ai pas eu quand j'étais ado, mettons. T'sais. C'est-à-dire un exemple que tu peux être gros puis heureux, tu peux être bien dans ta peau, tu peux avoir du succès, tu peux avoir des amis, tu peux vivre ta vie.
Oui, voilà, de retour sur les antennes de Canal Sud, 92.2 MHz avec Juliette de LDG. Donc, tu voulais réagir un petit peu sur ce qu'on vient d'entendre?
Ouais, bah, enfin, sur pourquoi Lizzo? Bah, déjà, parce que c'est peut-être la plus grande figure aujourd'hui de ce que, enfin, d'artiste grosse. En plus, Lizzo, c'est une artiste grosse qui est noire, donc il y a plein... Et elle le dit d'ailleurs dans son texte, elle le dit à un moment, j'ai pas l'habitude, enfin, j'ai l'habitude de pas être entendue, c'est parce que, enfin, c'est peut-être parce que je suis noire et grosse, tu vois, et ça rejoint... Et en fait, moi, j'aime Lizzo par principe, voilà, déjà, à partir du moment où... Non, mais tu vois, enfin, je veux dire, à partir du moment où t'as une meuf qui est... Alors, j'ai que le mot en anglais, mais qui est unapologetic, c'est-à-dire qui ne s'excuse pas d'être elle-même. Je ne peux qu'apprécier. En plus, elle fait de la chouette musique et elle fait de la flûte traversière.
Ouais, elle fait donc de la vraiment.
Enfin, tu vois, voilà, Lizzo coche toutes mes cases, mais je connais pas. Ah ouais, non, mais je connais pas très bien son œuvre, mais juste le fait qu'elle existe, je trouve que c'est fabuleux et qu'il en faudrait plus. Et tu vois, dans le commentaire que tu as mis derrière, il y a une nana qui dit moi, j'essaye d'être ce que j'ai pas eu quand j'étais ado, enfin, tu vois, de d'être le modèle, machin et tout. Et je m'y retrouve vachement et j'adore le fait que Lizzo... Alors, tu m'as demandé de choisir 3 chansons. Déjà, j'ai pas su, j'en ai mis 4. Et j'aurais pu en mettre 50 et j'aurais pu mettre tout Lizzo. Mais parce que j'aime le fait que, tu vois, elle fait autant des chansons. Bah là, sa chanson, elle s'appelle Special et le refrain, c'est littéralement « Au cas où personne te l'ait dit aujourd'hui, tu es spécial. » Genre, tu comptes. Et c'est important d'avoir des adultes qui te disent dans tes oreilles, soit en tant qu'adulte, toi-même, qui a besoin d'entendre ça. Soit je me dis, tu vois, quand t'es ado et que t'as une femme noire, grosse, qui porte des paillettes, qui porte des mini-shorts, qui danse, qui est hyper impressionnante, qui s'excuse pas, qui est là. C'est important d'avoir quelqu'un qui te dit, oui, toi aussi, genre je te le dis, parce que peut-être qu'on a oublié de te le dire aujourd'hui, mais tu comptes. Et mais Lizzo, elle fait aussi des chansons sur ses histoires d'amour, sur le fait que, ouais, elle est belle, elle le sait, qu'il y a même des mecs qui viennent la draguer, et que, tu vois, et j'aime le fait aussi de parler de ça, parce que, enfin, tu vois, dans les chansons que je n'ai pas mises et que j'aurais pu, j'ai failli mettre des chansons de Juliette, par exemple. J'aime beaucoup Juliette. Juliette a écrit de magnifiques textes, a une magnifique voix. Il n'empêche que Juliette, elle parle très peu du fait d'être attirante et attirée, tu vois. Parce que, alors je pense de l'autre, parce que c'est pas la même personne que Lizzo, elle a le droit, mais aussi parce que, ben, vient d'une autre période, d'un autre moment, et que peut-être c'était moins reconnu du fait d'être... Enfin, tu vois, il y avait moins ce rapport-là. Moi, j'aime qu'aujourd'hui, on ait des femmes qui soient en dehors des normes, et notamment en dehors des normes de poids, et qui sont capables de pratiquer l'amour envers elles-mêmes, et de retourner ça, et de dire, on a le droit d'être aimé, il n'y a rien qui fait qu'on n'est pas aimable. D'avoir aussi le
désirable,
droit d'être...
Désirable, oui, vous abordez aussi toutes ces thématiques autour de la sexualité, du corps...
Oui, et puis aussi d'avoir le droit de dire... Voilà, je suis le fait de ne pas être lisse, le fait d'avoir des irrégularités, le fait de pouvoir s'énerver, le fait de pouvoir aussi des fois dire de la merde parce que ça arrive, le fait de pouvoir parler fort, de des fois... Et tu vois, de présenter ce contraste.
De votre fanzine parlait d'émotion, justement, le rapport entre personne grosse et émotion.
Parce que quand tu prends l'habitude de t'excuser quoi que tu fasses et de te faire le plus petit possible, les émotions, tu as des grosses émotions, dans tous les sens du terme, ben c'est pas très vendeur, mais de toute façon, enfin tu vois, je trouve que aujourd'hui, tu vois, régulièrement quand on joue au jeu de et toi si t'avais pu t'aurais vécu quand maintenant, vraiment maintenant c'est bien, il y a plein de trucs qui déconnent, mais maintenant c'est pas si pire, on apprend aux enfants à découvrir et à écouter leurs émotions. C'est trop bien, on fait des petits monstres, le petit monstre rouge c'est la colère, et il faut écouter le petit monstre de la colère. Et je trouve que voilà, quand t'es gros et quand t'es grosse, et que toute ta vie on t'a dit « oulala, tu prends trop de place, plus petit », ben tu t'écoutes pas forcément, et c'est très chouette d'avoir, d'avoir des femmes et des hommes et des gens, parce qu'il faut arrêter aussi avec la distinction femme-homme qui est très artificielle, mais qu'il y ait des gens, de plein de manières différentes, qui montrent plein de facettes différentes de leur vie, et de ce que c'est être gros et grosse aujourd'hui. Et Lizzo, typiquement, en plus en ayant ce succès et cette carrière, réussit à montrer ça. À montrer qu'on peut être heureux, réussir, qu'on peut être en colère, qu'on peut être triste, qu'on peut... Et toutes ces facettes-là, je trouve que Lizzo les exprime très bien. Il n'y a pas qu'elle, mais...
Donc, dans la rue, à l'école... ou au travail, c'est vraiment lié aux imaginaires qui fantasment les corps, donc son espace aussi personnel et l'espace public avec ses codifications. Donc de nouveau, vraiment, je pense que cette idée de place dont tu parles depuis tout à l'heure est importante, c'est à trouver, c'est aussi son propre cheminement. Il y a évidemment le jugement sur, et voir l'avis en fait, sur le corps de l'autre qui prend aussi de la place. Surtout en tant que femme dans l'espace public avec les insultes voilà tout ce qui est stigmatisation. On en vient aux idées reçues et aux messages insultants. On en a un petit peu, désolé, on rebascule là dans la partie obscure.
J'ai plus de 14 ans. J'ai fait le deuil sur ça. Personnellement, alors du coup, bah, par contre, ça peut être, c'est bien effectivement de le préciser, ça peut être dur pour des gens à entendre. Mm-hmm. Mais en tout cas, moi personnellement, j'ai été beaucoup insultée plus jeune. Je suis encore insultée. J'ai décidé que je m'en foutais. Parce que ça ne touche pas. Mais oui, enfin, les insultes, c'est un gros truc.
Ça peut être manque de volonté, la paresse, suralimentation, mauvaise condition physique, on l'a dit, j'aurais fait pas de sport, mais tu peux pas faire de sport si tu trouves pas de vêtements de ski.
Ah mais ça c'est génial, ça vraiment c'est le meilleur truc de « oh là là t'es gros, t'es feignant, ouais. Va faire du sport », t'es en mode ouais. « cool sur quoi ?» Les machines, parce qu'il y a plein de machines que tu veux pas faire, tu vois, tu vas t'inscrire à la salle, il y a plein de machines que tu peux pas faire parce que c'est pas fait. Pour les corps gros, les exercices, il y a plein d'exercices que soit tu peux pas faire, soit te font mal quand tu les fais. Juste trouver des vêtements adaptés, genre trouver un maillot de bain. Disais, ouais. C'est, mettons.
Mais tu peux pas tout faire en grand, gros t-shirt noir, tu peux pas.
Non,
faire
ça
du
marche.
Ski,
non, le ski, tu vois, ça marche pas bien en gros t-shirt noir. Ouais, je sais, ouais. C'est dommage. Hein. tu vois, voilà. Non, mais il y a plein de trucs où c'est ok, cool, tu veux faire du sport, trop chouette. Mais déjà, va falloir te déconstruire sur ce truc de « Oh là là, mais comment est-ce que je vais être perçue en tant que personne grosse qui fait du sport ?» Parce que de toute façon, en tant que personne grosse, c'est un peu pile tu perds, face il gagne. Donc c'est pareil, tu vois, sur le fait genre de manger dans la rue. Quand tu manges en public, ouais. Que tu es gros, si tu manges une salade, tu as toujours l'impression, qui peut des fois être fausse, hein, parce qu'il y a aussi beaucoup, au bout d'un moment... C'est aussi le principe de la norme et de normer les choses et d'éduquer les gens dans une norme, c'est qu'au bout d'un moment, tu l'intègres. Donc c'est-à-dire que moi, pendant longtemps, et même encore aujourd'hui, j'ai décidé de plus l'écouter, mais j'ai toujours une petite voix qui me dit « Voilà, tout le monde te regarde, tout le monde juge ce que t'es en train de manger. Si tu manges une salade, les gens doivent se dire « Ah bah, tu fais bien de manger une salade, hein, parce que tu dois... Le reste du temps, qu'est-ce que tu dois manger pour être aussi grosse ?» Ou alors, si tu manges un truc gras ou un truc perçu comme pas sain, etc., tu as l'impression que les gens disent « Ah bah voilà, tu m'étonnes, si tu manges ça, forcément, que tu sois gros. » C'est pareil avec le sport, c'est-à-dire que t'as toujours l'impression, enfin t'as ce truc-là de si j'y vais, les gens vont me trouver ridicule, comment est-ce que je vais être perçue. Il y a plein de sports où en plus t'es face à ton image, tu vois, c'est con. La danse classique, j'adore la danse classique. La danse classique, tu pratiques devant un miroir pour la raison principale de ça te permet de voir le mouvement et donc de corriger le mouvement. C'est la même chose pour toutes les danses, hein. Quand t'es pas à l'aise avec ton corps, que t'es entouré, que t'es dans une salle entourée de trois murs de miroirs au milieu de gens qui généralement font à peu près l'épaisseur de ma cuisse, c'est pas très facile toujours, surtout si t'es débutant, de te lancer. Et en plus, tu rajoutes la difficulté, va trouver des vêtements de sport, Parce que, tu vois, Décathlon, moi, je fais un 50, je crois, à peu près, en termes de vêtements. Pour m'habiller chez Décathlon, genre pour des tenues de ski, il faut que j'aille au rayon homme, que je prenne la plus petite taille et que je rentre le ventre. T'as déjà essayé de faire du ski en rentrant le ventre? L'hiver dernier, je me suis retrouvée... Alors, c'était très drôle, parce que maintenant, j'ai beaucoup d'autodérision. L'hiver dernier, je me suis retrouvée enfoncée dans la neige jusqu'à la taille en faisant des raquettes. J'ai éclaté de rire, mon pantalon a... Genre, littéralement, le bouton de mon pantalon a volé. Je me suis retrouvée à moitié à poil dans la neige jusqu'aux hanches, en train de rigoler comme une baleine. Et là, tu te dis, mais tiens, je suis sur la plus grande taille disponible et je fais même pas partie des gens les plus gros. Moi, sur les, tu vois, on parlait de l'échelle des grosseurs. Moi, je suis un gros moyen. Donc, je suis plutôt sur le début de l'échelle. Et même moi, déjà, tous les sports, je ne peux pas les trouver.
Mais c'est vrai qu'à votre dernier événement, là, à Chapelle, il y avait un dressing gratuit qui était en non-mixité. Et c'est vrai que je m'étais posé la question, en fait, de... Enfin, je trouvais ça marrant, fun, tu vois, ce dressing. Et j'en parle à une copine de l'orga en lui disant, mais c'est marrant, pourquoi vous avez fait ça, en fait, toi? Et elle me dit, mais qu'elle, ado, en fait, à aucun moment, elle pouvait, comme ses copines, échanger ses fringues. Mmh. J'avais pas perçu, en fait, cette réalité.
Non, et puis c'est un truc de sociabilisation. Enfin, quand t'es ado, je sais pas comment c'est quand t'es un ado garçon qui s'identifie comme un garçon et qui est grandi entouré de garçons. Mais en tout cas, quand t'es une fille qui est perçue comme une fille qui est entourée de filles, il y a un peu ce truc de on s'échange des vêtements, machin, et tout ça. Moi, je me rappelle, ado, on avait essayé avec ma meilleure amie, on avait déjà des tailles très différentes, et on s'était dit, vas-y, on prend les mêmes vêtements, on les essaye, genre chacune dans sa taille, on essaye, et puis on voit comment ça va rendre, haha, on l'a fait deux fois, et après je dis, non, bah là, on va s'arrêter, c'est bon, c'est plus la peine. Et j'avais 12 ans, j'étais sur la taille maximum du magasin. Et tu vois, et autant, moi, je fais de la couture, d'où mon explication patron tout à l'heure, je fais de la couture, je couds la plupart de mes vêtements, parce que ça me permet d'avoir des vêtements à ma taille, adaptés à ce que je veux, etc. Bon, déjà, c'est un luxe, parce que ça coûte hyper cher, parce que c'est des compétences, parce que c'est du temps. Mais en plus de ça, il y a des vêtements que je serais... Genre, je vais pas me coudre un maillot de bain pour aller nager, faire des longueurs, parce que j'ai pas le matériel qu'il faut, j'ai pas du truc résistant, du machin, du truc. Bon, il y a des sports très spécifiques. Tu vois, tu veux faire du patin à roulettes, et ben il faut trouver des patins à roulettes qui vont supporter ton poids. Tu veux faire... Enfin, tu vois, il y a tous ces trucs-là.
Matériel professionnel, vêtements professionnels aussi.
C'est ça, équipements de protection individuelle.
Absolument.
Les EPI, eh ben pardon, mais quand t'es gros, ça peut être très chiant. Alors, ça dépend des EPI, mais si tu veux, à partir du moment où t'es dans des activités qui sont perçues... Déjà, à partir du moment où t'es dans des activités qui sont perçues comme masculines, t'as un peu plus de marge, parce que quand chez les mecs, on tolère un peu plus le poids. Je nuance, hein, à chaque fois, c'est un peu plus, et voilà. Mais il y a un peu moins ce côté de tu dois être fin, petit et raffiné. Donc il y a ça, et puis du coup, on tolère aussi. Tu vois, l'agriculteur qui est gros, mais c'est pas parce qu'il. Tu vois, c'est pas le même type de gras. Parce qu'il y a le bon gros et le mauvais gros aussi, hein, voilà. C'est. Donc t'as des disciplines, t'as des activités, etc., où tu vas trouver un peu plus. C'est quand même pas la panacée, mais c'est un peu plus. Il y a des activités, ça n'existe pas. Et c'est très compliqué, tu vois. Et il y a des choses où, quand ça devient de la réglementation, tu vois, on parlait des uniformes. Les uniformes, c'est vite une tannée. Mais les uniformes, tu vas faire des suites. Tu vois, tu vas acheter le suite de la fac parce que t'es étudiant, que t'as 18 ans et que t'adores avoir le logo de ton université sur le dos parce que t'as 18 ans. Quand t'es gros, c'est très vite pas possible. Ou alors, il faut que tu prennes la taille homme en maximum en espérant que. Et c'est même pas dit. Enfin, tu vois, tous ces trucs-là, c'est des barrières à l'entrée au sport, au taf, à l'intégration. Et selon ton âge, il y a des choses, tu vois, le fait de pas avoir ton suite d'université, soyons très honnêtes, encore une fois, c'est pas dramatique. Quand t'as 18 ans, ça peut être un marqueur, tu vois, tu veux aller genre, je sais pas, t'as un événement de la fac, tu veux avoir le suite, tu l'as pas, bon, ça se voit que t'es différent, mais à la limite, que t'aies pas ton équipement de protection, j'en sais rien, t'as pas de gants parce que t'as des mains qui sont littéralement trop grosses pour des gants, ben c'est compliqué d'aller essayer des trucs. Tu vois, donc, à chaque fois, quand je disais plutôt que la grosseur et le poids, c'était un spectre, les discriminations qui vont avec, c'est un spectre. Depuis tout à l'heure, on parle de choses comme l'image de soi, etc. Je dis pas que c'est pas important, c'est essentiel l'image de soi et ça compte énormément. Mais effectivement, sur l'échelle des problèmes de la vie, que tu te sentes au top de ta journée parce que tu te trouves hyper beau dans le miroir, c'est pas forcément le truc vital. Par contre, de pas pouvoir acheter ton équipement de protection pour pouvoir aller faire ton taf, et donc de pas pouvoir faire ton taf, c'est plus emmerdant.
Et être protégé.
Être protégé, mais tu vois, c'est aussi de... typiquement, le médical, c'est un énorme problème. C'est un domaine où il y a énormément de mauvaises conceptions, de mauvaises prises en charge. Tu vois, je parlais du matériel tout à l'heure, mais ouais, le fait que quand t'es gros, rien que le fait d'être pris en charge matériellement peut être compliqué, sans même parler de tomber sur quelqu'un qui est pas un gros con grossophobe. Et ça, dans le médical, il y en a beaucoup. Mais juste, des tables, tu sais, genre tu vas chez le kiné, t'as des tables qui sont censées monter et descendre, bah t'as des tables qui supportent pas au-dessus de genre 130 kilos. 130 kilos, pas si gros en soi.
Ouais, c'est clair que les professionnels de santé, parce que là on parle de grossophobie médicale, sont moins tolérants, se montrent blessants vers les patients et personnes grosses. Ils ont tendance à ramener tous les problèmes de santé de ces personnes à leur poids, ce qui conduit parfois en plus à des erreurs de jugement et des erreurs médicales. Je te fais écouter un son justement qui parle de ça et du matériel.
Tout le monde y allait de cette petite remarque. Les assistants anesthésistes, les docteurs, les infirmiers, tout le monde avait cette façon de me traiter qui était différente. L'assistant d'anesthésiste qui me demande mon poids et ma taille la veille de l'opération, quand je lui dis mon poids de tête, qui fait « Ah ouais, faudrait faire quelque chose quand même. » Je me suis dit, j'aurais dû lui répondre « Je fais un régime entre maintenant et demain 6 heures. Vous avez peur de pas avoir assez de produits dans l'hôpital ? Enfin, ça se passe comment ?» Un autre problème aussi, je me suis rendu compte, beaucoup d'infirmiers prenaient pas la peine d'aller chercher le brassard qui correspondait à ma taille de bras, à mon tour de bras. Que le brassard faisait à peine le tour de mon bras. On me demandait de le tenir. Du coup, quand ils gonflaient le brassard pour prendre la tension, ça faisait une tension anormalement élevée. Et eux, ils se disent « Ah bah c'est normal, elle est grosse, elle a forcément une tension élevée. » Et ça fait des relevés qui sont complètement faux, en fait. On m'a demandé si j'avais une bas de contention, c'est-à-dire assumer que j'ai des problèmes circulatoires parce que j'étais grosse alors que j'en avais aucun. La nourriture d'hôpital, bon, je pense que tout le monde est au courant, c'est pas génial. D'office, en fait, on a coché la case diététique ou léger, alors que j'avais absolument rien demandé. Les personnes se sont dit, elle est grosse, on va lui mettre le régime diète, quoi, tant qu'à faire. On m'a donné des vêtements d'hôpital qui n'étaient pas à ma taille. C'est plein de micro-agressions, en fait, qui font qu'on se sent extrêmement mal, quoi. Et le fait que, par exemple, j'aille voir pour un rhume, pour une otite, et le médecin, il va rajouter le petit... Et il faudra penser à perdre du poids, en plus, et c'est le petit truc. Genre, on va oublier, quoi. Alors que les gens nous regardent dans la rue... Alors que notre mère nous regarde quand on se resserre, quand on rentre à la maison, alors qu'on se fait insulter par les adolescents, alors que, enfin, quand on va consulter un médecin, on s'attend à trouver de la compassion et de l'aide, pas à se retrouver blâmé. Et il y a vraiment cette idée que quand les gros sont gros, c'est de leur faute, qu'on peut rien pour eux parce qu'ils doivent se gérer eux-mêmes, alors qu'on vit dans une société où clairement c'est pas désirable d'être gros et que tout le monde fait tout pour ne pas l'être. Cette moralité super étrange associée à l'apparence physique, parce qu'il y a plein de personnes minces qui ont un comportement autodestructeur ou quoi que ce soit, on veut pas leur faire de remarques.
Ouais, donc il y a pas mal de choses quand même qui sont dites.
Je vais pas te mentir que ça m'a un peu mis les poils.
Ouais, ouais.
Même si c'est des expériences vécues pour une partie, et puis si c'est pas vécu par moi, vécu par des potes ou par des gens, etc. Mais c'est très puissant, c'est très lourd, encore une fois, je trouve. Mais tu vois, c'est dit hein, dans le son, le truc de... tu te mets dans une situation vulnérable en demandant des conseils, de l'aide, une prise en charge, et tu te prends... Ça va de la micro-agression à littéralement du refus, du rejet pur et dur parce que t'es gros et parce qu'on a décidé que c'était pas bien et que c'était ta faute et que donc tu ne méritais pas d'attention, tu ne méritais pas d'effort, tu ne méritais pas... Et sans... Alors il y a une partie, c'est dû au fait que le médical est... sous-financé, que tu vois, on est d'accord que, encore une fois, beaucoup de force au personnel médical, notamment hospitalier, etc., qui travaille dans des conditions très difficiles, on est d'accord. Mais à un moment, tu te retrouves à être blessé physiquement ou à être maltraité parce qu'on n'a pas pris le temps de faire des choses qu'on aurait pu faire, genre chercher un brassard à ta taille qu'on a, ou alors parce qu'on n'a même pas de quoi, parce qu'il y a plein d'endroits qui n'ont pas le brassard adapté. Et tu vois, je disais plutôt qu'on n'a pas de, on n'a pas de chiffres concrets sur est-ce que l'obésité c'est mauvais pour la santé ou pas. En fait, on n'en a pas parce que notamment, en fait, la question qui est en train de se poser un peu dans la recherche actuellement, c'est est-ce que l'obésité est vraiment mauvaise pour la santé ou est-ce que le fait qu'on ne cherche pas ce qu'il peut y avoir derrière l'obésité fait qu'on ne traite pas les problèmes qui du coup se développent plus.
Ouais, favorise en fait. En fait, c'est-à-dire
que si tu peux pas faire
l'obésité.
Par exemple genre de mammographie parce que t'es trop gros, et ben forcément on va détecter des problèmes qui pourraient être traités beaucoup plus tôt, vachement plus tard. Et donc au moment où on les détecte, ils sont déjà vachement plus avancés. Et donc on va dire, ah oui, mais c'est parce que t'es obèse que t'as ça. Bah pas forcément. Tu vois, moi j'ai des problèmes de dos. J'avais commencé à avoir des problèmes de dos, j'avais 15 ans. Je faisais un bon... Je devais faire genre 70 kilos quand j'ai commencé à avoir des problèmes de dos. De mes 15 ans à mes 23 ans, je crois, on m'a toujours dit que c'était parce que j'avais des problèmes de poids. Mais personne ne s'est dit, on va peut-être lui faire une radio. Non, parce qu'à partir du moment où tu es gros, c'est dû à ton poids. Tout ce qui peut arriver est dû à ton poids. Et les rares choses, tu vois l'exemple de l'otite de la personne qu'on a entendue, les rares choses qui ne peuvent pas être liées à ton poids, dans tous les cas, on va quand même te remettre le pic.
On va te le conseiller, quoi.
Et tu vois, et j'ai une médecin généraliste que j'aime très fort, qui sur plein de points est géniale. La dernière interaction que j'ai eue avec elle a été très violente pour moi, parce que la première partie de l'entretien, ça a été de la moralisation sur mon poids, avant qu'elle sache que j'ai des TCA, donc des troubles du comportement alimentaire. Troubles du comportement alimentaire, c'est le mot valise pour tout ce qui touche aux troubles en ce qui concerne la nourriture. Ça peut être ne pas... Ça peut être l'anorexie, ça peut être la boulimie, ça peut être l'hyperphagie, ça peut être des problèmes à consommer certains types d'aliments, etc. Enfin, c'est très varié, encore une fois. Mais c'est une pathologie, pour le coup. C'est une maladie, ça ne dépend pas de toi. Et ben, à partir du moment où elle a su que j'avais des TCA, son ton a complètement changé. On était dans un truc très bienveillant, etc. Parce que avant, j'étais une mauvaise grosse qui ne faisait pas d'efforts.
Qui était responsable.
C'est ça, c'était de ma faute.
De ta faute.
Parce que j'étais. D'être. Enfin, voilà, c'était. Ah, ou alors, c'était ma faute de rester grosse. Et après, j'avais une maladie, j'avais une pathologie, ce n'était pas de ma faute. Donc, je méritais d'être traitée comme un être humain normal. Et là, tu te dis, mais putain, moi, j'ai une interaction avec une médecin que je connais, que j'apprécie et qui est plutôt bien. Mais c'est-à-dire que, tu vois, nous, chez LDG, on a régulièrement des demandes de praticiens, de recommandations
de praticiens.
Ouais,
j'allais te demander justement si ça existait des listes gynéco.
Alors,
ou...
gynéco, si tu veux, la question... Alors, il existe une liste qui s'appelle Gynéco Safe, ouais. Ou Gynéco and Safe, bref, vous cherchez Gynéco Safe sur Internet, vous trouverez, qui est sur plutôt axé le sexisme, etc. Jusqu'à présent, en tout cas pour Toulouse, nous, on n'a pas de liste, c'est en cours de préparation. Mais après, la question de la safitude, c'est très difficile parce qu'en fait, tu peux avoir, les gens changent, les médecins changent. Tu peux avoir un médecin qui, à un instant T, n'est pas grossophobe et puis qui, 5 ans plus tard, va l'être. Tu peux avoir un médecin qui n'est pas gros envers les personnes moyennement grosses, mais qui l'est avec les personnes infiniment grosses. Enfin, tu vois, donc c'est très difficile. Et puis, c'est pas parce que quelqu'un n'est pas grossophobe que la personne ne va pas être raciste, ne va pas être transphobe. Enfin, bref, c'est très compliqué. On est en cours de réflexion actuellement dans le collectif sur comment éventuellement peut-être faire une liste en précisant bien qu'à chaque fois, c'est de l'expérience, que c'est pas universel, que machin. Mais c'est très compliqué. Mais ce que ça fait, c'est que, ben... Quand t'es malade, tu vas pas voir un médecin. Parce que t'as 9 chances sur 10 qu'on ne t'écoute pas, ou alors qu'on te dise que c'est à cause de ton poids. Et déjà, il y a un décrochage qui est marqué sur les soins des jeunes adultes. C'est-à-dire que souvent, en gros, de 0 à 18 ans, c'est tes parents qui prennent tes rendez-vous, t'es plutôt bien suivi dans la plupart des cas. Mais de 18 à genre 30 ans, en gros, il y a un décrochage des soins. Les jeunes adultes, soit parce qu'ils ont pas le temps, parce qu'ils prennent pas le temps, parce qu'ils ont pas l'argent, parce que ça coûte cher, parce qu'ils n'ont pas l'impression d'en avoir besoin, etc., bah, ils vont pas chez le dentiste, chez l'ophtalmo. Et ce décrochage-là, il est d'autant plus présent chez les personnes grosses, parce que à chaque fois, tu vois, quand t'as pas de discrimination, tu vas chez un médecin, la personne peut être une grosse... Enfin, tu vois, ça peut être un gros con en face, tu sais pas, mais bon, au pire, voilà. Quand t'es gros, tu te dis, à chaque instant, potentiellement, je vais me prendre des réflexions, voire des pratiques dégradante ou blessante ou heurtante.
Ouais, tu t'extrais toi-même du système de soins. Vous en, vous
c'est ça, en fait, il y a un moment où tu finis pour te protéger par ressortir et en disant bah non. Jusqu'à ce que tu rencontres quelqu'un de gros qui est sur la ville et qui peut te dire bah moi j'ai un super médecin machin, et puis une fois sur deux, le médecin ne prend plus de nouveaux patients, et tu vois. Et parce qu'on revient au problème de la médecine, tout ça, tout ça. Mais il y a vraiment ce truc concret de, au bout d'un moment, tu finis par ne plus y aller, par peur de te prendre des portes, par peur de te prendre des murs, par peur de te prendre des réflexions, par peur de ne pas pouvoir t'asseoir dans la salle d'attente parce que les fauteuils ne sont pas adaptés, par peur qu'on ne puisse pas prendre ta attention parce qu'il n'y a pas le bon brassard, par peur qu'on t'oblige à te peser. Alors que soit tu t'en fous, soit ça peut être nocif.
Tu vas pour des maux de tête.
Ouais, non, et puis aussi parce que ça peut être nocif. Hein, tu vois, on a des adelphes qui sont qui peuvent avoir des TCA très forts et qui, pour qui, genre, voir ton poids, ça peut être destructeur. Et tous les médecins ne l'entendent pas. Et il y a aussi un truc de... Le poids est très mal compris par la médecine, en partie parce qu'on ne l'étudie pas, enfin, on l'étudie peu. Mais tu vois, enfin... L'obésité, en tant que telle, c'est multifactoriel. Tu as des dizaines de facteurs possibles et qui viennent... On en revient à la question du jeu des sept familles, tu vois. C'est-à-dire que souvent, c'est rare que tu aies qu'une question. Et il y a des gens pour qui c'est pas intéressant de creuser, il y a des gens pour qui c'est intéressant de creuser, mais de toute façon, quand même, tu voudrais creuser, que tu n'as pas forcément la... Il n'y a pas forcément de médecin spécialisé sur, tu vois, sur le croisement de toutes ces, ces pathologies-là. Comment tu fais ? Quand bien même tu voudrais perdre du poids, parce qu'il y a des gens qui veulent perdre du poids, et ils ont le droit, hein, comment tu fais quand tu as différentes maladies, que ce soit psychologiques, que ce soit physiques, que tu aies des troubles hormonaux, etc. Comment tu fais si personne n'est capable de te prendre en compte dans ta globalité ? T'es gros, donc à partir du moment où t'es gros, on considère qu'on n'a pas à aller plus loin que ça. Et tu vois, il y a un... On en parlait du fait qu'en France, c'est pas très développé. Ça l'est beaucoup plus dans les milieux, enfin, dans le monde anglo-saxon. Et par exemple, en Angleterre, il y a un docteur qui, littéralement, son nom de site, c'est The Fat Doctor, donc le médecin gros. J'ai noté son nom parce que voilà, mais c'est docteur Asher Larmy.
Si tu nous écoutes...
Ouais.
Hi. Mister Larmy.
Non, et qui, du coup, tu vois, fait des consultations à distance... pour destiner aux personnes grosses en disant venez, on fait genre un point sur votre poids, sur etc. En disant moi je me spécialise dans la grosseur et aussi sur vous donner des outils nécessaires pour ensuite aller voir d'autres médecins et dire ça c'est de la merde, ça c'est ok, ça tu vois. Et dans toutes les communautés discriminées, il y a ces espèces de réseaux ou de conseils, etc., où on explique un peu aux gens comment se gérer les uns les autres. Et notamment, c'est comment réagir face à un médecin grossophobe. Parce que c'est un vrai truc. Et parce que pour la plupart des gens, si tu n'es pas toi-même dans le médical, il y a quand même cette espèce de pouvoir de la blouse blanche.
Ouais, carrément, la figure de l'autorité médicale.
C'est ça, et puis parce que...
Autoritaire, paternelle.
Et puis qui utilise des fois des mots que tu connais pas, que tu comprends pas, et ce savoir-là, en fait. Et c'est épuisant de te dire, alors attends, avant d'aller chez le médecin généraliste, je vais faire 3 heures de recherche pour peut-être comprendre, ou alors pouvoir dire, ah, Joker, ça marche pas, tu vois, ou contre Kems, là t'as pas le droit.
Mais c'est pas normal. J'ai l'impression que le médical, justement, est parfois utilisé pour aller à l'encontre de collectifs comme LDG. Et je te fais écouter un son, je voudrais savoir ce que t'en penses.
You cannot glorify obesity. It's dangerous, it kills people.
This is bullshit.
Je sais même pas par où commencer, pour vrai. C'est toujours les mêmes discours qui reviennent. C'est toujours, on glorifie l'obésité, on glorifie les problèmes de santé. Pas du tout ça qu'on fait. L'objectif, c'est pas de dire aux gens « Vous devriez être comme moi ». L'objectif, c'est de dire « J'ai le droit d'exister, puis on n'a pas à m'invisibiliser parce que je suis plus grosse ».
Le chiffre sur la balance veut absolument rien dire. Moi, je suis grosse, puis je suis full en santé, je fais mes bilans sanguins, tout est chill, je prends soin de moi, de ma santé, autant physique que mentale. Puis juste pour contrer ce que Jillian Michaels dit, moi, j'ai perdu genre 80 livres il y a quelques années. Je me suis surentraînée au gym, j'ai développé des troubles alimentaires, j'ai perdu le poids qu'on voulait que je perde, puis je me suis jamais autant sentie mal dans ma peau.
Si ce qui nous intéresse vraiment, c'est la santé, il faut arrêter de parler du poids parce que c'est pas tant une variable sur laquelle on a un contrôle, puis ça nuit en fait vraiment à tout le monde de faire une obsession là-dessus. T'sais, je pense pas qu'on a besoin là, de se faire dire une fois de plus qu'être gros c'est dégueu puis qu'il faut changer puis d'encourager les personnes à se mêler de notre corps puis à nous dire comment tout ça est weird là.
Alors, je tiens à quand même souligner que sur la plupart des sons que tu passes, c'est des sons québécois. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'on en revient au fait qu'en France, c'est peu développé. Et dans la francophonie européenne, c'est pas si courant. Il y a un reportage qui est sorti, enfin qui a été rediffusé il y a pas très longtemps, genre la semaine dernière sur France 2, qui est un reportage sur Daria Marx.
Ah, yes, ouais.
Voilà, qui est une des fondatrices et un des membres les plus importants de. J'ai oublié le nom de la.
Gras politique, c'est ça.
Gras politique, ouais. Merci, que je me suis noté. Mais ouais, en France, t'as de plus en plus de collectifs qui se montent. Nous, on est régulièrement contactés par des bébés collectifs ou des collectifs en formation et tout. Et pareil, si vous nous écoutez, désolé, on n'est pas hyper réactifs. On a un petit collectif, nous aussi, ancien mais petit. Mais en tout cas, voilà, faut pas hésiter à en créer. Mais c'est vrai qu'en France, en Belgique, en Suisse, il n'y a pas tant. Et ce qu'il y a, ou alors t'as des trucs, genre t'as des assos qui vont prôner... qui vont utiliser des mots comme voluptueux et rond, ce qu'il faut arrêter de faire.
Je n'ai pas compris.
Il y a des assos, tu vois, qui vont dire, en gros, nous, on accueille les personnes rondes et voluptueuses.
Ah voluptueux et rond. Ouais. Ah oui, et rond, d'accord.
Voilà. Okay. Et pour les accompagner dans une acceptation de leur corps pour aller vers une perte de poids. Et t'es en mode, mais nique.
Bullshit,
toi,
comme
cordialement. Bien sûr, toujours avec beaucoup de cordialité. Non, mais voilà, mais... Mais ce son est très intéressant parce qu'effectivement, on nous oppose souvent le truc de « oui, mais c'est mauvais pour la santé ». Est-ce que j'ai besoin de réexpliquer que vraiment, on n'a pas d'études, tout ça, je pense qu'on a bien compris. Et ensuite, le côté de faire la promotion de l'obésité. Mais si c'est un argument qu'on retrouve à partir du moment où tu es progressiste, on a tendance à te l'opposer. En disant, je sais pas, tu trouves que c'est important de parler de consentement aux enfants. Vous voulez la pédocriminalité, c'est ça? Non, on n'a pas dit qu'il fallait toucher les enfants, on laisse les enfants tranquilles. Tu vois, vous voulez le mariage pour tous et après on pourrait épouser son chien? Non, on n'épouse pas les animaux, tu vois. Donc à un moment, voilà, et nous on ne fait pas la promotion de l'obésité, encore une fois, on dit à personne, devenez gros, c'est super, c'est pas ce qu'on dit. On dit juste, en fait, on existe, point. Et ce serait cool qu'on puisse exister tranquillement. Et nous, LDG, on identifie globalement deux pôles d'action. Il y a les actions communautaires. Donc pour dire aux personnes grosses, venez, on fait des trucs ensemble, comme ça on va kiffer la vie ensemble, ou venez, on va déconstruire des choses, etc. Donc par exemple, nous, tous les troisièmes samedis du mois, de 11h à 14h, normalement. Vous retrouverez les infos sur Instagram. Mais... on organise un groupe de parole en mixité choisie. Donc c'est ouvert à toutes les personnes grosses, sauf aux hommes cisgenres. C'est-à-dire que si vous êtes un homme cisgenre, désolé, montez votre collectif et on sera ravis de... Voilà. Mais à part ça, c'est ouvert à toutes les personnes grosses pour venir parler de problématiques, de soucis. C'est aussi voilà, des moments d'échange. On a une réunion mensuelle tous les troisièmes dimanches du mois à 14h. Ou pareil, on fait 2 heures de réunion et après on fait un temps. Alors on appelle ça des temps collectifs, mais tu vois, on va jouer à des jeux de société, on va discuter, machin, on va refaire le monde, pour s'offrir des temps entre personnes grosses où on peut être gros, et où on n'est pas dans un truc de « Oh mon Dieu, mais je suis sûre que tout le monde me regarde, ah non, moi je peux pas faire ça, etc. » Et après, pardon, il y a une partie qui est plus la communication et un peu, bah, tu vois, un peu ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire ce travail de pédagogie, d'expliquer aux gens qui ne sont pas concernés ce que c'est la grossophobie, pourquoi c'est pas bien d'être grossophobe, comment ne pas être grossophobe, etc. À aucun moment, on dit aux gens, devenez gros, vous allez voir, c'est le meilleur club du monde, c'est pas ça. Et évidemment que, alors nous, on n'encourage jamais à la perte de poids, parce que aujourd'hui, il n'y a pas de
vous
manière.
Êtes anticapitaliste aussi, donc.
On est anticapitaliste, tout à fait. Non, mais voilà, mais enfin, dans le sens où y a, pour plein de raisons, mais notamment une des raisons, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de manière sécurisée et pérenne de perdre du poids. Ça n'existe pas. La plupart des gens, et par la plupart des gens, on est vraiment à genre plus de 9 personnes sur 10, reprennent tout. En une partie, tout ou plus du poids qu'elles ont perdu suite à un régime dans les 3 ans. Donc, il n'y a pas de manière safe, il n'y a pas de manière sécurisée. Nous, on peut pas encourager, enfin, tu vois, moi, je peux pas encourager qui que ce soit à aller se faire charcuter ou à volontairement s'affamer pour perdre du poids. Surtout si la raison de la perte de poids, c'est « Ah, mais tu mérites pas d'exister parce que t'es gros. » Pardon, mais à un moment, rentrer dans un 36 n'a jamais été une bonne raison pour se faire du mal. Parce que perdre du poids, globalement, c'est quand même mettre ton corps dans une situation de souffrance, où tu le sous-nourris volontairement. Ton corps, il est pas fait pour ça. C'est con. Voilà, le concept de ton corps, au contraire, c'est de s'enrichir de tout ce qu'il peut, parce qu'on sait jamais, peut-être que demain, il y aura un blizzard et il faudra survivre dans le froid. C'est le principe d'un corps humain. Voilà, bon, bah, désolé. Et donc, la perte de poids, c'est... Il y a des gens pour qui c'est important, il y a des gens pour qui, voilà, qui sont dans des démarches et ils ont le droit, hein. Encore une fois, je suis personne pour juger et je me permettrai pas. Mais nous, on peut pas, on veut pas et on peut pas l'encourager, parce que la plupart du temps, ça revient littéralement à se faire du mal pour rentrer dans une norme arbitraire et objectivement débile. À partir de là... on fait pas la promotion de l'obésité. Par contre, effectivement, on dit pas aux gens coupez-vous des bouts de gras pour être plus mince. Oui, bah.
Ouais, parce qu'il y a tout le business autour de la chirurgie bariatrique.
Ouais, et puis c'est un scandale. C'est un scandale parce que déjà il faut être très gros pour faire de la chirurgie bariatrique normalement. Parce que c'est des opérations. T'as plusieurs opérations, mais t'as des opérations où on te coupe un bout de l'estomac. On te coupe un bout d'un organe complètement sain. Pour que tu perdes du poids, parce qu'on a décidé un jour qu'être mince, c'était plus beau. On en est là, quand même, tu vois. T'as des opérations où on réduit, genre où on met un anneau autour de ton estomac pour qu'il puisse pas grossir plus, machin. Mais c'est-à-dire que vraiment, quand tu regardes les conséquences post-opération, alors je sais plus combien, mais c'était genre 3 personnes sur 5 qui avaient fait de la chirurgie bariatrique regrettées dans les 5 ans. C'est énorme. En plus, t'as des complications... des complications très souvent énormes, etc. Encore une fois, tout ça pour que tu perdes du poids, pour rentrer dans une norme spécifique et absurde. Alors évidemment, il y a des gens, c'est pour des questions de santé, etc. Et là, c'est encore une autre problématique. Et voilà. Mais qu'on recommande et qu'on mette en valeur et qu'on insiste sur de la chirurgie, enfin, moi, je trouve ça ahurissant. Et en plus de ça, si tu veux, il y a des conditions en théorie bien précises pour faire de la chirurgie. Par exemple, si tu as des troubles du comportement alimentaire, des TCA, tu ne peux pas normalement faire de chirurgie. Parce que vu que tu as des compulsions et que tu as des comportements alimentaires qui sont compulsifs et qui ne sont pas complètement contrôlés, ça peut être dangereux. Dangereux au sens où tu peux mourir si tu fais une... Enfin, tu vois, si tu as une compulsion sur une sleeve. Enfin, j'abuse sur mourir, mais pas tant, tu vois. Mais en fait, comme on en revient au fait qu'on vit dans une société capitaliste, bah, c'est un business, et donc pour qui dit business dit faut faire de la thune, et donc en fait on s'en fout de vendre, enfin on va vendre des chirurgies bariatriques à des gens qui remplissent pas tous les critères, qui en ont pas forcément besoin, à des gens qui font de la dysmorphie, donc qui se voient beaucoup plus gros qu'ils ne le sont, mais en fait c'est vraiment, enfin c'est, pour moi c'est pas de la médecine, et pour moi c'est pas, enfin ça c'est pas plus sain que de juste être gros et content, tu vois. Et tout ce rapport au médical est hyper, hyper problématique et hyper dangereux, parce qu'il y a aussi un truc de quand il connaît rien, que t'as 25 ans et qu'on dit « Ah, mais là, va falloir perdre 20 kilos et puis très vite, parce que sinon, vos articulations dans 50 ans, bah ouais, ça peut faire flipper, c'est normal. » Quand, à 12 ans, on t'amène faire devant un nutritionniste qui est le médecin des régimes, pour te faire faire des régimes parce que t'as 10 kilos de trop. 10 kilos de trop par rapport à qui, à quoi, comment, pourquoi. Ça sort du cul d'une chèvre, mais on t'a dit que t'en avais en trop, donc il faut bien faire quelque chose. Et que t'as quelqu'un qui a un joli diplôme derrière et qui te dit qu'à partir de maintenant, le matin, tu manges plus rien, mais tu vas boire de l'eau au citron. Bah forcément, ça laisse des traces. Tu vois, et tous ces trucs-là, en fait, je veux quand même insister sur le fait que nous, on fait pas la promotion de l'obésité, parce que de toute façon, ça veut dire quoi faire la promotion de l'obésité ? Faire la promotion, on va pas aller vendre du poids, on y est. Bref, mais nous on insiste sur, voilà, sur ce truc de être gros, être gros a peut-être des conséquences à long terme, par contre se détester, essayer de s'amincir tous les jours de toute sa vie, là on est sûr que ça a des conséquences.
Mais et le capitalisme est partout. Là, je te fais écouter un dernier son un peu d'un ignoble personnage. Après, on passera, parce que Là, on va passer sur des tonalités plus feel good après, mais là, c'est.
Avec plaisir.
Ouais, carrément. Là, c'est le dernier. Depuis tout à l'heure, je le passe pas. Mais bon, mais là, c'est le moment, tant pis. C'est un ignoble personnage qui s'appelle Barbier, je sais plus trop son prénom, qui était directeur d'un journal d'économie, style Le Point, je sais pas trop, et qui fait une sortie là sur une compagnie aérienne qui veut faire payer 2 sièges. Tu sais, aux personnes grosses, puisqu'elles occuperaient peut-être deux sièges, tu vois. Et c'est drôle parce que, à un moment, tu disais qu'on n'est pas là pour se faire violence contre soi-même. Eh bien, si, lui, il pense que si, c'est quand même extraordinaire. Il est extraordinaire.
Il faut distinguer dans notre vie collective ceux qui sont 100% victimes d'un handicap et ceux qui peuvent avoir une part de responsabilité. Il y a des obèses qui le sont à leur corps défendant. C'est génétique, c'est une maladie. Ils ne peuvent pas faire autrement. Et puis, il y a ceux qui payent le prix en étant obèses de comportements alimentaires dérégulés, d'un manque de volonté, d'un manque de violence qu'on se fait à soi-même pour que son personnage, son individu, son corps ne crée pas des problèmes à la collectivité, notamment dans les transports en commun. Comment distinguer l'obésité subie de l'obésité dont on est responsable? Mais il faut que notre société puisse regarder en face ce qui relève de l'état de victime. On a subi quelque chose et la collectivité est solidaire. Et ce qui relève de l'état de responsable. On a des difficultés, mais on en est responsable parce qu'on n'a pas su, par son manque de volonté, eh bien, échapper à cette fatalité. On a eu ce débat dans ce pays sur les fumeurs, l'aura-t-on, sur ceux qui par dérégulation de leur régime alimentaire sont obèses.
Waouh. Ouais.
Alors après, enfin, tu vois, on parle du capitalisme depuis tout à l'heure, mais on est aussi dans une société judéo-chrétienne, comme voilà, et c'est très catholique hein, de se faire violence et de se fouetter en disant mea culpa, mea maxima culpa, le péché de gourmandise, tout ça, quand t'es gros, t'en es forcément coupable, et les conservateurs adorent dire ça. Mais nous on part du principe que de toute façon la vie est dure pour plein de raisons. Il y a plein de choses qui font que la vie est dure, que la société est dure, etc. On n'est pas obligé de faire en sorte que son corps et son rapport au corps soit une souffrance et un combat. Et tu sais, enfin moi j'adorerais ne pas être à LDG. J'adorerais que le collectif n'existe pas. J'adorerais qu'on n'ait pas besoin d'exister, en fait. J'adorerais pouvoir me balader comme je veux. J'adorerais pouvoir manger ce que je veux, quand je veux, sans me sentir jugée, sans me demander si je vais pouvoir m'asseoir, si je vais pouvoir... Enfin, tu vois, tous ces trucs-là. Et ce serait trop bien que ça n'existe pas. Il se trouve que ça existe, malheureusement. Que la situation s'améliore quand même, Dieu merci. C'est très classique. Mais tu vois, ce qui est intéressant, j'ai amené du coup le livre Happy Fat dont je parlais tout à l'heure et que j'aime beaucoup et qui a fait partie des trucs de mes plus récents déclics. Ce bouquin, si vous avez l'occasion, alors il est qu'en anglais, mais si vous avez l'occasion de le lire, n'hésitez surtout pas. Il est à la fois hilarant. Et à la fois très profond et très marquant, et voilà. Et il y a un passage justement où elle parle de l'avion. C'est une comédienne qui fait des shows à l'international et qui prend l'avion et qui explique que bah là, elle est à un point où elle ne peut plus se contraindre et se contenir à un seul siège. Que la dernière fois, elle a fait un vol jusqu'en Australie. Elle vit en Angleterre, elle allait jusqu'en Australie sur un siège où littéralement elle a été tellement contrainte dans l'avion. Que pendant plusieurs jours, elle n'a pas pu bouger tellement elle a eu mal après ses 18 heures de vol, etc. Et elle explique que voilà, elle s'est rendue compte qu'elle était désormais trop grosse pour faire certaines choses. Et elle dit, alors c'est une mauvaise traduction, mais elle dit en gros, elle finit son chapitre sur ça en disant « J'ai été à la fois triste parce qu'il y a plein de choses que je ne peux pas faire et en même temps, ce qui m'a surprise, c'est que j'ai été soulagée. » Et elle dit « Mon corps a pris la décision pour moi. Je ne suis désormais plus capable d'être inconfortable. Inconfortable, c'est maintenant trop petit pour moi. Je suis obligée d'être confortable. C'est quelque chose que je n'avais jamais l'impression de mériter, finalement. » Parce qu'elle dit « À partir de maintenant, je ne peux plus m'accommoder. Je ne peux plus me serrer pour rentrer dans une chaise trop petite. Soit on m'apporte une autre chaise où je serai confortable, soit je ne pourrai pas être là. Et ce sentiment de dire, et moi ce truc-là, c'est la première fois que je l'ai vu écrit, où j'ai eu un truc de « waouh », de se dire, à un moment, toute ta vie, tu fais des efforts pour te rentrer, pour te contraindre, et il y a un moment où, la société ne voulant pas s'adapter, tu dépasses. Et il y a un espèce de, à la fois c'est très chiant parce que c'est-à-dire qu'il y a plein de contraintes au quotidien qui se rajoutent, et en même temps il y a un truc de je peux plus, là j'ai atteint ce point où quoi que je fasse, je ne pourrai plus. Et ce soulagement qu'elle décrit est, eh ben, il est à la fois triste parce que ben, ça, c'est chiant de se dire qu'on est dans une société qui limite les modèles, qui limite la possibilité, etc. Et en même temps, qu'il y ait des modèles comme ça qui existent et qu'il y ait des gens qui l'écrivent, ça fait un bien.
Ouais, pour reprendre un titre d'un des textes lus dans un des fanzines de LDG, ça déborde.
C'est ça, littéralement. Et il y a un moment, et alors au début, où t'essayes de faire rentrer, où t'essayes de déborder de la manière la moins gênante, et il y a un moment où soit tu décides que tu arrêtes d'essayer, soit il y a un moment où juste tu ne peux même plus essayer, ça ne sert plus à rien, tu vois. Et ce truc de... elle parlait, l'autre immense abruti parlait des sièges d'avion, etc., machin. Et tu vois, Hagen disait, dans une des propositions qu'elle disait, c'était en mode, mais moi, je serais conceptrice d'avion et capitaliste, je sauterais sur l'occasion de faire des sièges plus larges, un peu plus chers, pour que les gens puissent aussi être confortables, tu vois. Et après... Elle évoque aussi, et ça c'est un truc qui se remarque, c'est qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, on a tendance à, encore une fois pour des mesures d'économie, hein, à réduire de plus en plus la taille des choses. On fait des canapés plus petits, des places d'avion plus petits, des places de train plus petits, parce qu'il faut que ce soit plus petit pour en mettre plus, pour faire payer plus, à plus de gens différents. Et donc, sauf que tu enlèves toutes les personnes qui sortent des normes. Et... le poids en soi et le fait d'être gros n'est pas en soi un handicap à proprement parler. Mais pour rappel, la définition du handicap, c'est le phénomène complexe qui découle des interactions entre les caractéristiques corporelles d'une personne et les caractéristiques de la société où elle vit. Et donc si le poids n'est pas en soi un handicap, parce qu'on vit dans une société, capitaliste, tout ça, on ne refait pas la liste, ça peut le devenir. Et il y a des cas, genre dans un avion, où ça peut devenir un handicap d'être gros. Alors que de base, il suffit juste de faire des sièges d'avion plus larges.
Tu parlais aussi du rapport au corps, on peut s'écouter Isolt.
Sur le sol, je me fais du mal depuis des années. La main sur les yeux, pas envie de la retirer. Y a pas de place pour les fables, y a pas de place pour les regrets. Cœur sur le sol, relève-toi, faut pas déconner. J'ai ce bruit dans ma tête et j'aimerais que ça cesse, mais en vain. J'ouvre un peu les yeux, des couleurs, des photos me reviennent. Tous ces bruits dans ma tête, faut que ça cesse. J'ai perdu la tête. Le regard des gens, j'en ai que faire. Qui sont-ils pour me juger? Un pardon à mon père. insolente, je luttais. Dans les yeux de mon frère, ouais, des claques, il s'en ébouffait. Sur les joues de ma mère, des rivières se sont écoulées. Je sais bruit dans ma tête et j'aimerais que ça cesse, mais en vain. Ah, j'ouvre un peu les yeux, des couleurs, des photos me reviennent. Ah, tout ce bruit dans ma tête, faut que ça cesse. J'ai perdu la tête. Chemin de ma maison, quoi qu'il advienne, je retrouverai l'éclat de la raison. J'ai perdu la tête. Où est le chemin de ma maison, quoi qu'il advienne, je retrouverai l'éclat de la raison. Advienne, je retrouverai les clés de la raison. J'ai perdu la tête, ouais. Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison. Et...
De retour sur les ondes de Canal Sud 92.2 MHz avec Juliette de LDG. Bon, on pourrait encore parler longtemps du corps comme territoire politique, mais tu reviendras pour
avec grand plaisir.
Prochaine émission. On va quand même parler de LDG. Donc le point de vue situé de qui vous êtes, qui est super important parce que ça permet aussi de comprendre un petit peu la façon dont vous pensez, raisonnez et militez. J'ai repris un petit peu le début du manifeste. Donc si tu dois préciser, voilà, s'il y a des modifications. Mais à l'origine, en tout cas, c'était un collectif. Attention, je fais gaffe parce qu'on m'attend derrière avec le buzzer et tout ça. Là. De meufs cis et non-binaires, en grande majorité des personnes queer, des personnes racisées, des personnes précaires. Certaines sont psychiatrisées et c'est par ces prismes-là que notre collectif est féministe et intersectionnel.
Bah, alors ça a changé, ça n'a pas changé dans le sens où le collectif a quelques années maintenant. Ouais. Que les membres ont beaucoup tourné et en même temps les valeurs fondamentales et l'identité fondamentale restent la même. On est toujours un collectif ouvert à tout le monde sauf aux mecs cis. Encore une fois, les gars, vous êtes les bienvenus pour faire votre collectif et on vous soutiendra avec grand plaisir. Mais voilà, pour l'instant en tout cas, c'est une décision qui est prise de faire de cet espace un espace safe, aussi parce que le poids, c'est un... Il y a une question du genre qui est très prégnante. On n'est pas gros de la même manière selon qu'on soit perçu comme homme ou femme et selon qu'on était sociabilisé comme homme ou femme, on a pas mal parlé. Mais voilà, donc nous pour l'instant, et puis aussi du fait du sexisme et de violence qui ont pu être vécues, pour l'instant c'est un collectif qui est réservé aux personnes qui ne sont pas des hommes cis. Mais on est toujours précaire pour beaucoup. On est Toulousains, Toulousaines ou affiliés. En fait, on a des membres qui sont qui gravitent autour de Toulouse, mais qui ne sont pas à Toulouse même. Donc voilà, si vous êtes intéressé et que vous n'êtes pas sur Toulouse même, n'hésitez pas.
On vous contacte un site internet.
Alors, on a une adresse mail qui est luttedesgrasses@riseup.net. Mais là, vous avez le plus de chances de nous voir passer, de nous attraper, c'est sur Instagram, @luttedesgrasses. Donc n'hésitez surtout pas, on est ouvert. On fait du coup des réunions mensuelles, qui sont aussi des moments de discussion. Après, on essaye d'être des bons élèves et de limiter le temps de réunion pour ensuite faire des vrais temps de convivialité. Donc voilà, n'hésitez pas. Et on fait aussi des groupes de parole. Il n'y a pas besoin d'être à LDG pour venir au groupe de... pour venir au groupe de parole. Et pareil, vous avez toutes les infos sur l'Instagram. Mais voilà, c'est toujours un collectif queer, c'est toujours un collectif intersectionnel, à volonté intersectionnelle. Et on est ouvert aux propositions, aux idées, aux suggestions. On a toujours besoin, comme dans tous les collectifs et dans tout le milieu associatif et de la bonne volonté. Donc n'hésitez pas. Voilà, on est chouette.
Waouh!
Bah, j'espère que vous êtes bien vendu après quasiment 2 heures. Attends. On a des super goûts musicaux.
Trop bien, trop bien. Vous êtes anti-autoritaire.
Ouais, c'est aussi pour ça qu'on est un collectif et pas une association. Et d'ailleurs, je crois que j'ai pas fait la faute une seule fois. Donc, félicitations, moi. Non, mais c'est important pour nous parce que le principe d'une association, déjà, c'est que c'est déclaré. Donc, c'est un truc qui est officiel et qui rentre dans les normes aussi étatiques. Là où un collectif, tu en fais bien ce que tu veux. Et aussi parce qu'on n'a pas d'organisation hiérarchique. C'est-à-dire qu'on a une organisation complètement horizontale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de président, même sur le papier. Il y a pas de, voilà, tout le monde est au même niveau, tout le monde peut s'investir, alors à son échelle, à sa motivation et à son temps. Hein. Mais voilà, on est anticapitaliste, on est anarchiste aussi, et ça passe par le fait d'être un collectif et pas une asso, voilà, ce genre de choses.
Vous avez des projets prochainement?
Alors, l'asso est en reconstruction, c'est pas exactement ça, mais il y a eu un gros bouleversement dans l'équipe cette année, donc là pour l'instant on est en train de se refaire de se poser, de construire des trucs, de poser des choses, mais on va essayer de créer plus de partenariats avec la région toulousaine, par exemple en participant à des émissions radio avec des radios locales. Non, et puis voilà, enfin on a participé aussi aux journées du soin communautaire. C'est Clarté qui l'organisait. Voilà, donc on a participé à une table ronde sur le soin communautaire et les discriminations, les violences médicales. Voilà, c'est ce genre d'événement. Et pour l'instant, les rendez-vous fixes et réguliers, c'est les groupes de parole et les réunions pour les gens qui seraient intéressés de nous rejoindre.
Si le logo, en tout cas, l'iconographie... lié à LDG, représente souvent une baleine.
Parce que les baleines, c'est beau. Non, déjà parce que les baleines, c'est beau. Ouais. Parce qu'il y a ce truc de... c'est le double exemple, le double sens de grâce.
Carrément, voilà. Mais oui, bien sûr.
Et aussi parce que la personne qui a fait le logo, c'est une illustratrice et tatoueuse qui s'appelle Périne et que vous pouvez retrouver sous le nom de Moti Tatou. Et qui adore les baleines et fait beaucoup de baleines. Donc il y avait une filiation.
Spéciale dédicace d'ailleurs.
Ça. Carrément, carrément.
Je te fais écouter un dernier son et puis après si t'as des big up ou quelque chose à rajouter, ce sera maintenant quoi.
Allez.
Donc un petit dernier son plein de paillettes et de baleines tatouées.
Moi, ça me blesse gravement quand j'entends une grosse me dire « je m'autorise pas à ». Et ça, moi, c'est plus jamais. Moi, je m'autorise tout. Tout ce que j'ai envie de le faire, je le fais. Tout ce que j'ai envie de mettre comme fringues, je vais les mettre. Tout ce que j'ai envie de dire, je vais le dire. Voilà, je veux plus jamais qu'on m'interdise quelque chose ou m'interdire quelque chose sous prétexte de mon apparence physique. C'est fini. L'été, je mets des mini-shorts, je monte mes bras, j'en ai rien à faire. Et j'aimerais tellement donner un peu de ça, en fait, aux femmes grosses qui osent pas. Parce qu'une fois qu'on a un peu de ça et qu'on arrive à le faire grandir, c'est une vraie force. Ça soigne pas le monde, c'est pas ça qui fera cesser la grossophobie, mais ça permet quand même de profiter de la vie beaucoup mieux.
Oui, je crois que c'était une émission sur le yoga et sur la réappropriation...
Ouais, dans tous les cas, de
ses droits aussi.
C'est un message que j'approuve et je pense que c'est le but aussi, c'est de dire t'as les bras qui blottent quand tu bouges et on s'en fout. N'empêche que t'as des bras et que tes bras te permettent de faire des trucs et c'est cool. Et si t'as envie de taper ton meilleur mini-short à paillettes, mets ton mini-short à paillettes. Et nous c'est aussi pour ça et c'est dans cet esprit-là qu'on lutte et qu'on milite. Et tu vois, typiquement, on parlait du sport, mais t'as Gras Politique, je sais qu'elles font des séances collectives, et de se dire, en fait, à un moment, on nous a longtemps repoussé dans des... Tu vois, on nous a longtemps dit que le sport, c'était pas fait pour nous, mais en fait, à un moment, on a un corps et il faut s'en servir. Et peut-être que t'as envie de faire des salutations au soleil. Vas-y, on le fait, et on se prend pas la tête, et on complexe pas. Et tu vois, on disait qu'en France, c'était peu développé, la lutte contre la grossophobie, et que dans les milieux anglo-saxons, ça allait vachement plus. Mais le premier mouvement de fat acceptance, donc l'acceptation de la grosseur, ça, c'est né en 1967 à New York, et ils faisaient des fat in. Littéralement, c'est des rassemblements où genre ils mangeaient des glaces en public, en mode on est gros et on a le droit de manger. Et ils brûlaient des livres de régime. Et c'était tout. Genre vraiment, c'était juste dire on est gros, on est content d'être gros et de se retrouver, et puis on peut faire des trucs normaux, et vous allez pas nous l'interdire. Et je trouve, en tant que personne grosse, qu'on prend très vite l'habitude de s'interdire des trucs, parce qu'on a intégré qu'on allait être jugé. Et du coup, on devient les personnes les plus violentes envers nous-mêmes, et on devient les personnes les plus grossophobes, ça devient nous, parce qu'on se dit, je vais m'interdire de faire des choses comme ça, les autres pourront pas. Tu vois, les autres pourront pas être grosses, elles pourront pas se moquer de moi si je fais pas ça. Et à un moment, on s'en fout. S'ils veulent se moquer, qu'ils se moquent. Mais en vrai, petit tips, la plupart des gens, ils sont tellement concentrés sur leur propre nombril et leurs propres insécurités qu'ils ne te regardent pas en train de manger une glace ou de manger ta feuille de salade. Fais ce que tu veux et porte ton mini-short à paillettes si ça te fait plaisir. Et tu vois, je disais que j'étais très contente de vivre aujourd'hui. Et le dernier son que j'ai choisi, je l'ai choisi aussi pour ça, parce que donc c'est la chanson qui s'appelle, donc je l'ai mise en anglais parce qu'elle est un peu mieux en anglais, désolé, mais c'est Surface Pressure de Encanto, la famille Madrigal en français. Et c'est une chanson, c'est un film qui raconte une famille magique où il y a trois sœurs, et l'une d'elles c'est le personnage principal. Dans cette famille, tout le monde a des super pouvoirs, etc., sauf la sœur, personnage principal. Et les deux autres, il y en a une qui est... très fine, très douce, qui fait pousser des fleurs à foison, machin. Et il y en a une, c'est... elle a une force surhumaine, elle est très grande, très musclée, très large d'épaule un peu, elle a des traits assez carrés, etc. Et Disney s'était dit que ça allait être la jolie sœur qui allait le mieux marcher. Et donc ils ont fait plein de produits dérivés, etc., sur la jolie sœur, celle qui fait pousser des fleurs, machin. Elle a beaucoup moins bien marché que l'autre, la grande sœur, celle qui est forte, qui est costaud, et qui en même temps, dans sa chanson, on écoutera après, j'espère, exprime aussi ses fragilités et le fait qu'elle est très forte, mais que des fois elle aimerait bien l'être moins, et voilà. Et ce film, c'est aussi sur l'évolution, le fait que c'est pas parce que t'es gros et que t'es fort et que tu t'es blindé que tu peux pas avoir des fragilités. Et le fait que ce personnage-là, déjà, ait été porté à l'écran, c'est fou, parce que jusqu'à présent, chez Disney, qui est quand même une des plus grosses compagnies de films pour enfants, les seuls personnages gros, c'était des méchants. Ursula, c'est un méchant. Hadès, c'est un méchant. Ralph Lacasse dans Wreck-It Ralph, au départ, c'est un méchant. Les seuls gentils personnages gros, c'est genre les bonnes fées dans Aurore, quoi. Enfin, dans La Belle au Bois Dormant, qui sont pas les personnages les plus intéressants, qui sont montrés comme un peu teuteux. Et là, il y a un personnage qui est gros, qui est puissant, qui est fort, qui est important, et qui a eu un succès fou. Donc voilà, j'avais envie qu'on passe ça aussi pour montrer que même si la lutte, ça peut être dur, et qu'il y a plein de moments qui sont hyper durs, et qu'il y a plein de choses au quotidien qui sont éprouvantes, il y a aussi des trucs chouettes, genre les enfants, ils kiffent voir des personnages gros et forts, et qui chantent, et qui ont envie d'être fragiles, et voilà.
Trop bien. Bah, écoute, merci. Juliette, tu veux rajouter un dernier truc ou...
Déjà, je fais un gros big up et j'embrasse très fort tous mes adelphes de Lutte des Grâces. Je voudrais aussi, du coup, j'ai cité plusieurs... plusieurs collectifs, mais en France, on a Gras Politique qui fait un travail assez cool. Et en Belgique, il y a un collectif qui s'appelle Corps Cool. Et Cool, C-O-O-L. Et qui fait plein de choses. Elles ont un espèce d'annuaire de ressources sur lesquelles il y a des dizaines de sites internet, de livres, de films, de projets, etc. Donc vraiment, si vous cherchez à vous renseigner et à voir aussi ce qui peut exister, n'hésitez pas à aller voir ce document-là, puisqu'il est très très bien. Et elles sont aussi en train de monter une application qui permet de recenser les lieux accessibles aux personnes grosses et qui est collaboratif. Donc n'hésitez surtout pas à aller voir ça. Et puis voilà, mangez en public, mettez vos meilleurs vêtements et faites-vous plaisir. La vie est trop courte pour s'emmerder parce qu'on a du poil ou du gras à des endroits où on n'est pas censé en avoir.
Bah, merci du conseil.
Merci de ton accueil.
À très bientôt. Et puis on s'écoute Jessica Darro. Et puis super. Pas une fois le mot association a été cité.
Moi je dis
respect. Bon, à bientôt.
À bientôt.
Salut, merci. Ciao.
I'm the strong one, I'm not nervous, I'm as tough as the crust of the earth is.
Okay.
I move mountains, I move churches, and I glow 'cause I know what my worth is.
Of course, I mean, hey, where are you going?
I don't ask how hard the work is. Got a rough, indestructible surface. Diamonds and platinum, I find them, I flatten them. I take what I'm handed, I break what's demanded. But under the surface, I feel berserk as a tightrope walker in a three-ring circus. Under the surface, was Hercules ever like, yo, I don't wanna fight Cerberus? Under the surface, pretty sure I'm worthless if I can be of service. A flaw or a crack, the straw in the stack that breaks the camel's back. What breaks the camel's back? It's fresh like a drip, drip, drip that'll never stop. Whoa. Fresh that'll tip, tip, tip till you just go pop. Whoa. Oh. Give it to your sister, your sister's older. Give her all the heavy things we can't shoulder. Who am I if I can't run with the ball? If I fall to pressure like a grip, 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 and it won't let go. Whoa. Pressure like a tick, tick, tick till it's ready to blow. Whoa. Give it to your sister stronger. See if she can hang on a little longer. Who am I if I can't carry it all if I falter? Under the surface, I had my nerves and it wore since I worry something is gonna hurt us. Under the surface, the ship doesn't swerve as it hurt how big the iceberg is. Under the surface, I think about my purpose. Can I somehow preserve this? Line up the dominoes, the light wind blows. You try to stop it, toppling, but on and on it goes. But wait, if I could shake the crushing weight of expectations, would that free some room up for joy or relaxation? Our simple pleasure, instead we measure this growing pressure. Keeps growing, keep going, 'cause all we know is pressure like a drip, drip, drip that'll never stop. Whoa. Pressure that'll tip, tip, tip till you just go pop. Whoa. Give it to your sister, it doesn't hurt. Breaks. No mistakes, just pressure like a grip.